14 mai. Restez en présence du sentiment. Jamais vous ne demeurez face à face avec un sentiment pur et simple. Vous l'enveloppez toujours dans un fatras de mots. Les mots le déforment. La pensée, tourbillonnant autour de lui, le précipite dans l'ombre, l'étouffe sous une montagne de peur et de désir. Jamais vous ne restez en présence d'un sentiment et de lui seul, face à la haine ou face à cet étrange sentiment de la beauté. Quand surgit le sentiment de haine, vous dites que c'est mal. Puis vient l'effort, la lutte pour vaincre cette haine, toute l'agitation des pensées tournant autour d'elle. Essayez de rester en présence de ce sentiment de haine ou de jalousie, d'envie, de faire face au venin de l'ambition. Car après tout, c'est votre lot quotidien dans la vie, même si vous souhaitez la vivre avec amour ou avec le mot amour. Puisqu'il est là en vous ce sentiment de haine, ce désir de blesser, de faire mal à l'autre d'un geste ou d'un mot cinglant, voyez si vous êtes capable de soutenir le face-à-face avec lui. Vous l'êtes ? Avez-vous déjà essayé ? Essayez de rester en contact d'un sentiment et voyez ce qui arrive. Vous allez trouver cela extrêmement ardu. Ce sentiment, votre esprit va refuser de le laisser en paix. Il va entrer en scène avec le torrent de ses souvenirs, de ses associations, de ses injonctions et de ses interdits, de ses bavardages incessants. Ramassez un coquillage. Pouvez-vous le regarder, vous émerveiller de sa délicate beauté sans dire « qu'il est beau » ou bien « de quel animal provient-il » Pouvez-vous le regarder sans le mouvement de l'esprit? Pouvez-vous vivre le vrai sentiment caché sous le mot, au lieu du sentiment fabriqué par le mot? Si vous en êtes capable, alors vous allez découvrir une chose extraordinaire, un mouvement au-delà de toute mesure de temps, un printemps qui ne connaît jamais d'été. Mai. Comprendre les mots. J'ignore si vous avez déjà examiné et approfondi tout ce processus de verbalisation, de dénomination. Vous aurez dans ce cas constaté que c'est une chose tout à fait étonnante, extrêmement intéressante et stimulante. Lorsque nous donnons un nom à une chose que nous voyons, que nous sentons, ou qui fait pour nous l'objet d'une expérience, le mot prend une importance extraordinaire. Or, le mot, c'est le temps. Le temps est un espace dont le mot est le centre. Toute pensée est un processus de mise en mots. C'est en mots que nous pensons. L'esprit peut-il se libérer du mot ? Ne demandez pas « comment puis-je me libérer ?» Cela n'a aucun sens. Mais interrogez-vous vous-même et voyez à quel point vous êtes esclave de mots tels que « l'Inde », la Bhagavad Gita, ou tels que communisme, chrétien, russe, américain, anglais, ou caste inférieure ou supérieure à la vôtre. Le mot amour, le mot Dieu, le mot méditation. Quelle importance extraordinaire nous avons donnée à ces mots, et combien nous en sommes esclaves. Mai. Le souvenir brouille la perception. Êtes-vous en ce moment en train de spéculer ou faites-vous une expérience réelle tandis que nous cheminons ensemble? Vous ignorez ce qu'est l'esprit religieux, n'est-ce pas? Si j'en crois ce que vous dites, vous ignorez ce que cela signifie. Peut-être en avez-vous une petite idée, une vague notion. De même que vous entrevoyez le ciel bleu magnifique quand le nuage se déchire. Mais dès que vous apercevez le pan de ciel bleu, cela devient un souvenir que vous voulez renouveler et dans lequel vous vous noyez. Plus vous désirez le mot pour l'engranger sous forme d'expérience, plus vous vous y noyez. Mai. Le mot crée des barrières. Existe-t-il une pensée sans mots? Lorsque l'esprit n'est pas encombré de mots, la pensée cesse d'être la pensée telle que nous la connaissons pour devenir une activité d'où le mot, le symbole, est absent. Elle ne connaît donc pas de frontière. La frontière, c'est le mot. Le mot crée les barrières, les limites. Or, un esprit qui ne fonctionne pas en mots est sans limites, sans frontières. Il n'est pas captif. Prenons le mot « amour », par exemple. Voyez ce qu'il éveille en vous. Observez-vous. Dès que je prononce ce mot, vous vous mettez à sourire, vous vous redressez, vous ressentez quelque chose. Le mot « amour » éveille donc toutes sortes d'idées, toutes sortes de divisions entre le charnel et le spirituel, le profane et le sacré, et j'en passe. Mais découvrez vraiment ce qu'est l'amour. Pour découvrir ce qu'est l'amour, l'esprit doit bien sûr s'affranchir de ce mot et du poids de ce mot. mai. Au-delà des mots. Pour pouvoir nous comprendre mutuellement, il est à mon sens indispensable de ne pas être captif des mots. En effet, un mot comme « Dieu », par exemple, peut revêtir pour vous un sens particulier, alors que la représentation que je m'en fais risque d'être tout à fait différente, voire inexistante. Il nous est donc quasiment impossible de communiquer si nous n'avons de part et d'autre la ferme volonté de comprendre et d'aller au-delà des simples mots. Le mot « liberté » s'entend généralement comme « liberté par rapport à quelque chose », n'est-ce pas ? On est libéré de l'avidité, de l'envie, du nationalisme, de la colère, de ceci ou de cela. Alors que « liberté » peut avoir un tout autre sens, à savoir le sentiment d'être libre. Et je pense qu'il est essentiel de comprendre ce sens-là. En fait, l'esprit est fait de mots, entre autres choses. L'esprit peut-il par exemple se libérer du mot « envie » ? Faites-en l'expérience, et vous verrez que des mots comme « Dieu », « vérité », « haine », « envie » exercent sur l'esprit une influence profonde. L'esprit peut-il se libérer de ces mots tant au niveau neurologique que psychologique ? S'il ne s'en libère, alors il est incapable d'affronter le fait de l'envie. Quand l'esprit parvient à regarder directement ce fait qu'il nomme envie, alors le fait lui-même a une action plus rapide que l'effort déployé par l'esprit pour agir sur lui. Tant que l'esprit songe à se débarrasser de l'envie par l'intermédiaire d'un idéal de non-envie, etc., cela le distrait. Il n'affronte pas le fait, et c'est le mot envie qui le distrait du fait. Le processus de récognition ne passe pas par le mot. Et dès l'instant où c'est à travers le mot que je reconnais un sentiment, je lui donne une continuité. mai. Une vision extraordinaire. C'est pourquoi nous voulons savoir si l'esprit, comme aux origines, peut atteindre à cette extraordinaire faculté de vision, de perception, pas en partant de la périphérie, de l'extérieur, des lisières, mais en une rencontre qui soit spontanée. Ne pas solliciter cette rencontre est le seul moyen de la faire, parce que dans cette rencontre inopinée, il n'y a pas d'effort, pas de quête, pas d'expérience. Mais il y a rejet total de toutes les pratiques normalement mises en œuvre pour accéder à ce centre, pour connaître cette éclosion. Ainsi, l'esprit est aiguisé, éveillé à l'extrême et ne dépend plus d'aucune expérience pour rester en éveil. Lorsqu'on se pose à soi-même la question, on peut en rester au niveau verbal, et pour la plupart d'entre nous, c'est forcément le seul niveau possible. Mais il faut bien comprendre que le mot n'est pas la chose. Le mot « arbre », par exemple, n'est pas l'arbre. Il n'est pas la réalité de l'arbre. La réalité, c'est lorsqu'on touche l'arbre, pas à travers le mot, mais en ayant avec lui un contact réel. Il y a alors une réalité effective. Ce qui veut dire que le mot a perdu son pouvoir hypnotique. Par exemple, le mot « Dieu » est si lourdement chargé de sens et a hypnotisé les gens à un tel point qu'ils sont prêts à l'accepter ou à le rejeter, et à se comporter comme des écureuils en cage. Il faut donc laisser de côté le mot et le symbole. La perception de la vérité est immédiate. Le stade verbal est le fruit d'une élaboration qui s'est faite laborieusement au fil des siècles, au gré des relations entre individus et sociétés. Par conséquent, le mot, le stade verbal, est un état de choses à la fois social et individuel. Pour pouvoir communiquer comme nous le faisons, j'ai besoin de la mémoire, des mots. Je dois connaître l'anglais. Vous devez aussi connaître l'anglais, dont l'acquisition a pris des siècles et des siècles. Le mot ne se développe pas uniquement dans les relations d'ordre social, mais aussi dans le cadre des liens sociaux en tant que réaction par rapport à des situations individuelles. Les mots sont nécessaires. Il faut donc se demander si, après tout le temps qu'il a fallu, siècle après siècle, pour que s'élabore le symbole, le stade verbal, tout cela peut s'effacer, s'évanouir, là, immédiatement. Est-ce à force de temps que nous allons nous libérer de cet emprisonnement verbal de l'esprit qui a mis des siècles à s'échafauder? Ou sa destruction doit-elle être immédiate? Certes, vous allez peut-être dire « Cela prend forcément du temps, je ne vais pas y arriver tout de suite ». Cela signifie qu'il va vous falloir des jours. Cela implique une continuité du passé, même s'il subit en cours de route des modifications, jusqu'à ce que soit atteint le point au-delà duquel on ne peut aller. Êtes-vous capable de faire tout cela? Nous avons peur, nous sommes paresseux, indolents, et nous disons « Pourquoi nous tracasser à ce sujet? C'est trop difficile !» ou encore « Je ne sais que faire !» C'est ainsi qu'on remet à plus tard, toujours plus tard. Pourtant, il faut que vous voyiez la vérité de cette continuité et de la modification du mot. La perception de la vérité de toute chose, quelle qu'elle soit, n'est pas de l'ordre du temps. Elle est immédiate. Notre esprit peut-il briser tous les obstacles en une seconde, à l'instant même où il questionne? L'esprit peut-il voir la barrière du mot, comprendre en un éclair la signification, l'importance du mot? L'esprit peut-il être dans cet état où il n'est plus prisonnier du temps? Vous avez sûrement déjà fait pareille expérience, mais pour la plupart d'entre nous, c'est un événement très rare.